Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Bonsoir, il est 6h avant minuit, merci d'écouter la quotidienne de Syllabe. En 1874, Impression soleil levant de Claude Monet, tableau qui donne naissance au mouvement impressionniste, était encore plus laid qu'un papier peint, selon les critiques. La femme au chapeau, peint par Henri Matisse en 1905, un pot de peinture jeté à la face du public, se scandalise les milieux autorisés. Les ready-made de Marcel Duchamp en 1917, des objets vulgaires et immoraux. Certains seront détruits à coups de marteau après qu'on ait uriné dessus. Je ne vous parle même pas de L'origine du monde de Gustave Courbet, gros plan sur une foufoune en 1866. Avec tout ça, je voulais juste vous dire que l'histoire de l'art est sans arrêt ponctuée par les scandales. Ils font partie d'elle et révèlent même souvent les œuvres qui marqueront l'humanité à tout jamais. Alors que penser des œuvres créées grâce à l'intelligence artificielle ? Un nouveau mouvement, ou plutôt pour l'instant un nouvel outil qui provoque un certain chaos dans la communauté artistique. Le 20 février dernier, Christie's a ouvert la première vente dédiée à des esquisses via IA, des œuvres en vente jusqu'à demain. En réponse à cette première, une pétition signée par 6300 humains et humaines a été mise en ligne pour demander l'annulation de la vente. Le problème, certaines œuvres ont été créées en utilisant des IA génératives comme Midjourney ou Stability AI, connues pour avoir utilisé comme base de travail et sans autorisation des travaux protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Une pratique comparée à un vol massif de travaux d'artistes humains. Si chaque artiste s'inspire des autres et que tout nouveau mouvement artistique suscite la controverse, hein, on l'a vu, les logiciels d'IA sont pourtant loin d'être des pinceaux comme les autres. Affaire à suivre. Mais avant ça, le flash de Cyriane.
800 milliards d'euros, c'est là.
Cyriane, allô ? Allô ?
Ils t'ont coupé la chic.
Ah, ils t'ont coupé la chic. Nous n'avons pas... Ah, je t'en prie, tout de suite, le flash de Cyriane.
800 milliards d'euros, c'est la somme dévoilée aujourd'hui par Ursula von der Leyen en vue du projet renommé Réarmer l'Europe. Un plan ambitionnant la mobilisation de 800 milliards pour la défense du continent, dont 150 milliards de prêts aux 27 pays membres. Des fonds servant à un renforcement de la défense des États et afin de fournir une aide immédiate à l'Ukraine par des dons. L'Europe fait face à un danger clair et immédiat d'une ampleur qu'aucun d'entre nous n'a connue dans sa vie d'adulte, a déclaré la présidente de la Commission européenne dans une lettre aux dirigeants européens et dirigeantes européennes. Un plan dévoilé au lendemain de l'annonce de Donald Trump de geler entièrement l'aide américaine à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky vient quant à lui tout juste de proposer une trêve dans les airs et dans les mers comme première étape de négociation d'une paix longue durée. Du jamais vu au Japon. Depuis 1975, cela fait 6 jours désormais que le nord-est de l'île Nippon connaît le pire incendie de son histoire avec 2600 hectares de forêts brûlées, pour cause notamment des sols secs et un manque drastique de pluie. À Ofunato, l'une des villes dévastées par les feux, ce sont uniquement 2,5 mm de précipitations qui s'y sont déversées en février. La moyenne étant habituellement de 41 mm. 4600 personnes ont été évacuées pour près de 2000 pompiers mobilisés. À partir d'aujourd'hui, s'ouvre un énorme procès pour complot en Tunisie. Aglaé, tu nous en dis plus.
Nous sommes prêts à sacrifier notre liberté, notre santé et ce qui pourrait s'en suivre pour défendre la dignité des Tunisiens et le droit des Tunisiens à avoir une vie politique libre et digne d'une nation moderne. Tels sont les mots d'Ahmed Nejib Chebbi, opposant historique et chef du Front du Salut National, la principale coalition d'opposition au président tunisien Kais Saied, dans un entretien accordé à France 24. Lui aussi fait partie de la quarantaine de personnes poursuivies pour complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État et adhésion à un groupe terroriste. Parmi les accusés, des personnes connues en Tunisie et des grands noms de l'opposition, comme Issam Chebbi, chef du parti Al-Jumhouri, mais aussi des avocats et avocates ou des figures de médias et des affaires. Certains avaient été arrêtés en 2023 lors d'un coup de filet dans les rangs de l'opposition et tous risquent de lourdes peines de prison, voire la peine de mort. C'est un procès injuste de personnalités en vue en Tunisie connues pour leur pacifisme et leur respect de la loi, s'est indigné à l'AFP Ahmed Nejib Chebbi.
Est-ce que tu peux nous expliquer, Aglaé, pourquoi est-ce que ce procès il est injuste ?
Pour plusieurs raisons. Déjà, les accusés, pour la plupart en détention, pour les autres en liberté ou en fuite à l'étranger, doivent comparaître en visioconférence, ce qui est jugé inadmissible par la défense. Ensuite, les accusations sont floues, très floues. Selon la défense, les dossiers sont vides et se basent sur des témoignages anonymisés. Et concernant le chef d'accusation de terrorisme, dans aucun acte d'accusation on ne trouve mention d'acte terroriste. Selon Ahmed Nejib Chebbi, nous assistons là à un détournement de la loi comme on n'en a jamais connu en Tunisie. Pour Jawar Ben Barek, juriste lui aussi accusé, il s'agit d'un harcèlement judiciaire visant à l'élimination méthodique des voix critiques en Tunisie. Le 18 février, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dénonçait la persécution des opposants en Tunisie. L'organisme soulignait que beaucoup faisaient l'objet d'accusations vagues et larges après avoir vraisemblablement exercé leurs droits et leurs libertés.
Mais alors, Aglaé, comment se fait-il que les autorités tunisiennes ne respectent la liberté alors que la Tunisie est une démocratie ?
Pour la faire courte, comme l'a dit à l'AFP Samir Dilou, avocat, cette affaire est surtout un complot du pouvoir contre l'opposition. Et pour la faire un peu plus longue, depuis le coup de force de Kais Saied, l'actuel président tunisien en 2021, et le fait qu'il se soit attribué presque les pleins pouvoirs, les droits et libertés n'ont cessé de régresser. Par exemple, des décrets présidentiels permettent d'arrêter quiconque critique le pouvoir. La justice, elle, n'est plus un pouvoir, mais une fonction. Et le complot est l'excuse régulièrement employée pour justifier les arrestations et même l'inflation ou les pénuries.
Merci Aglaé pour ton papier. Meurtre, telle est la qualification demandée à l'encontre du policier ayant tué Naël Merzouk en juin 2023 par le parquet de Nanterre. Concernant l'autre policier présent ce jour-là, Julien L., un non-lieu a été requis. Il était poursuivi pour complicité de meurtre. Rappelons qu'à l'époque, l'auteur du tir, Florian M., avait tiré à bout portant sur le jeune adolescent de 19 ans au volant d'une voiture de location lors d'un contrôle routier. Il avait par la suite été mis en examen pour homicide volontaire et écroué le 29 juin. Deux jours après avoir causé la mort de Naël. Après 5 mois en détention provisoire, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, de paraître à Nanterre et de détenir une arme. Une dénomination évidente pour l'avocat de la mère de Naël, Mounia Merzouk. Il n'y avait pas d'autre qualification envisageable dans cette affaire. Le geste est volontaire et l'intention de tuer évidente, a-t-il déclaré. Ce mardi, la congrégation religieuse des Pères de Bétaram, ayant longtemps dirigé l'établissement catholique, visé par 150 plaintes concernant des violences physiques et sexuelles, à l'encontre d'élèves, s'est reconnue responsable de ces actes. Jusqu'à présent, la congrégation avait indemnisé à hauteur de 700 000 euros, soit 60% de ses finances, les 19 victimes de violences sexuelles prescrites perpétrées par des religieux. Victime préalablement reconnue par la commission de reconnaissance et réparation mise en place par l'Église depuis 2021. Cependant, elle ne prenait pas en compte les victimes de laïcs. Les pères veulent à présent les indemniser grâce à la vente des quelques biens immobiliers qu'ils possèdent à l'Estelle Bétaram. Alain Esquer, porte-parole du collectif des victimes, a reconnu un soulagement timoré. Regrettant, je cite, le positionnement contraint et tardif d'une congrégation acculée qui aurait dû reconnaître ses responsabilités depuis des décennies. Est-ce que vous êtes déjà allé au Portugal ?
Oui !
C'était bien ?
Ouais, c'est de la belle au Portugal.
Bah moi je suis pas allée au Portugal.
Ah bah vas-y.
Du coup, si vous êtes comme moi, vous rêvez peut-être d'y aller. Eh bien cette semaine, au Triangle, du 5 au 6 mars, le spectacle Baté Fado va vous transporter. Odile Baudou, secrétaire générale et coprogrammatrice de la Cité de la Danse, nous en dit deux mots.
Alors Baté Fado, c'est un spectacle assez incroyable. C'est à la fois un concert et un spectacle de danse. Donc, dans le Baté Fado, on connaît bien le fado qui est la musique traditionnelle portugaise. Ce qu'on connaît moins, c'est la danse Baté Fado. Sur le plateau, pour vous représenter un petit peu, vous retrouvez 9 artistes, donc 4 danseurs, 5 musiciens, dont un chanteur incroyable qui chante le fado de façon absolument merveilleuse. Et donc on se retrouve vraiment transporté dans la culture portugaise avec à la fois cette musique fado et cette danse qui a existé jusqu'au 19e siècle et qui, face à notamment à la religion catholique et à la dictature, a finalement disparu. On va revivre cette danse qui est absolument magnifique, qui est une danse de claquettes, une danse de puissance, qui est aussi forte de beaucoup de sensibilité, de subversion. Donc c'est quelque chose d'assez jubilatoire de voir ces danseurs et ces chanteurs faire revivre cette danse et cette culture portugaise. Moi j'avais le sentiment d'être sur une place de village au Portugal, donc on est transporté véritablement et qu'on est porté par cette musique. Il y a effectivement ce côté mélancolique de la musique fado, mais alors elle est porteuse aussi d'un élan, d'une puissance et de quelque chose qui nous, vraiment, véritablement nous transporte. Et puis cette danse totalement incroyable, subversive, pleine de surprises. On a eu un tel choc en fait en voyant cette pièce avec le directeur du Triangle à Cherbourg il y a quelques temps déjà, qu'on s'est dit il faut absolument qu'on réussisse à programmer cette pièce, mais pour ça il fallait mettre en place une tournée. Et on a réussi à mobiliser 7 autres partenaires donc dans l'Ouest et en Ile-de-France pour nous accompagner. Donc ils sont dans une vraie belle tournée qui va pouvoir réjouir tous les habitants de l'Ouest de la France. Il faut vraiment venir découvrir ce temps-là, c'est un vrai, un pur bonheur, quoi, vraiment.
Il ne reste plus beaucoup de place pour les représentations à Rennes, donc dépêchez-vous.
Ça donne envie, hein.
Mmh. Ah oui, ça donne envie. Et si je vous dis croûte, vous pensez à quoi?
Tu veux pas savoir.
Aglaé?
L'épée croûte.
L'épée croûte,
j'ai hésité, j'étais pas sûre.
C'est pas ça.
Ah non, presque.
Eh ben non, je fais bien évidemment référence à la croûte en peinture, voyons. Enfin, je sais pas, c'est évident. Cette dénomination qui permet de parler d'un vieux tableau gaulois pourrave. Mais qui sommes-nous après tout pour définir le beau et le moche? C'est ce qui compte, remettre en question l'artiste Anaïs Touchaud dans sa projection rencontre l'Académie de la Croûte. Un travail sous la forme d'un talk show créé à partir de divers témoignages d'artistes et professionnels de l'art. Donc si ça vous intéresse, c'est à retrouver ce jeudi 6 mars de 18h à 21h au Tambour.
Stylé.
Oui, je sais. Envie d'en savoir plus sur l'histoire des droits des femmes à Rennes, ça aussi, c'est stylé, et bah j'ai ce qu'il vous faut. Dimanche, l'association Histoire Féminisme Rennes organise une déambulation dans la ville à travers les lieux emblématiques des luttes des années 70. De quoi se dégourdir les jambes au lendemain de la manif du 8 mars et de la fête de Célab au Café des Champs Libres.
Et oui.
De quelle heure à quelle heure?
On en parlera. Bah au Café des Champs Libres, c'est y a de 18h à minuit 30.
Voilà, venez faire la fête.
Il y aura toute la nuit.
Vous pourrez voir les face reveal des gens de 6h20.
Oui, OMG.
Anyways, l'entièreté de la déambulation sera retransmise en LSF et suivie d'un verre offert par l'asso. C'est super sympa ça.
Oui.
Pour vous inscrire, et bah c'est jusqu'au 8 mars par mail à l'adresse suivante histoire.féminisme.rennes@gmail.com.
C'est la fin de ce flash. Merci Cyriane. On passe à l'interview.
Quelle heure est-il?
6h.
Minuit, pourquoi?
Syllab. Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Ce soir, nous recevons Bénédicte Curzen, cheveux en chignon et chemise noire à pois blanc. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez nous parler aujourd'hui de votre exposition Magini, les corps habités. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît?
Oui, c'est une exposition qui présente des photos prises à Mayotte et qui ont pour thème central le monde de l'invisible et les croyances des Maorés au contact de l'État français et comment on assiste à un monde en pleine mutation. Une mutation quand même assez rapide, assez violente, qui confronte à la fois la modernisation, l'attrait... de tout ce qui représente le progrès, le bien-être et de ces croyances qui résistent comme le dernier bastion identitaire de ces gens.
Mmh. Vous avez parlé du monde invisible. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que vous entendez par monde invisible?
Alors, je vais juste préciser une chose, je ne suis pas du tout natif de Mayotte, ça ne se voit pas à la radio. Donc, je ne suis pas du tout une spécialiste des djinns et du monde de l'invisible, ni maoré, ni d'ailleurs. Mais ce que ce qui m'intéresse, effectivement, c'est tout ce que... Alors, c'est paradoxal pour une photographe. Je m'intéresse à ce qui est invisible, par essence, et du coup, aux esprits, et surtout, comment ils se manifestent, quelle est leur relation aux gens, quelle est leur relation à notre réalité, à ce qui est tangible. Et ça m'intéresse d'autant plus que c'est une question qu'on a beaucoup évacuée au contact de la science dans les sociétés occidentales.
Et donc, pour vous renseigner à propos de ces croyances, comment est-ce que vous avez fait ? Vous êtes allé au contact des habitants et habitantes ou...
Oui, en fait, ma méthodologie, elle est un petit peu la même depuis 20 ans que je fais des photos. C'est principalement, en son cœur, c'est créer du lien. Je suis arrivée à Mayotte avec quelques contacts, dont un ami journaliste que j'avais rencontré en Afrique du Sud, et aussi un groupe de danseurs, le Royaume des Fleurs, je pense bien fort à eux. Et voilà, et c'était à peu près tout. Et à partir de là, mon travail, c'est de créer des ramifications, de faire pousser un petit peu mon arbre là-bas et de faire des rencontres qui vont me guider et me permettre à la fois de m'ouvrir à quelque chose que je ne connais pas, que j'appréhende par les livres et la connaissance plutôt intellectuelle. Mais voilà, je me laisse guider en général par les gens pour que ça devienne une expérience du vécu et du coup une vision photographique.
En parlant de vision photographique, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance de vos photographies ou du moins comment est-ce que vous retranscrivez ce monde justement ?
Bah, ce qui est intéressant, c'est que une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, on repose un petit peu sur un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui est quand même très ancien, puisque au 19e siècle, je pense que c'est un petit peu dans un imaginaire collectif, on a tous en tête les photos de fantômes, d'esprits qui sortent de la bouche des gens. Avant-hier, j'étais à une exposition de Didi Huberman où on voyait des photos du 19e siècle avec des linceuls qui sortaient de la bouche de deux femmes pour figurer l'esprit qui quitte le corps. Donc je pense que l'obsession de rendre visibles les choses intangibles, mais qui sont de l'ordre aussi du ressenti, parce que c'est ça aussi. Je ne veux pas vous raconter des histoires qui vous effraieraient, mais des petites expériences avec les esprits. Mais voilà, l'idée c'était l'enjeu de ce, enfin l'un des enjeux, en tout cas l'enjeu photographique de ce projet, c'est comment activer la photographie pour vous permettre de voir ce qu'on ne peut pas voir. Et du coup, j'utilise plein de procédés différents. La réalité me donne aussi tout simplement de matière, parce qu'on peut détourner une situation complètement anodine et en faire quelque chose de mystérieux. On peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec les contrastes et avec l'ambiguïté de la réalité qui frôle toujours la fiction.
Et sur le site, enfin sur la présentation de votre exposition, vous parlez du coup de djinns et de croyances animistes. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond ?
Pour rentrer plus dans le détail, alors les djinns sont, on va trouver un équivalent dans le monde chrétien, judéo-chrétien, on va dire des anges, enfin ce sont des esprits. Il y en a de toute nature, de toute fonction. Il y a des djinns qui vivent dans la mangrove. D'ailleurs, ils n'ont pas le nom de djinn. Djinn, c'est un terme très, très, très générique. Mais dès qu'on se penche un peu sur toutes ces questions, on voit que c'est une cosmologie qui est quand même très riche, avec des termes très spécifiques pour décrire des fonctions, des actions, une efficacité. Voilà, après, je sais pas. Il faut que vous l'expérimentiez, il faut que vous parliez à des gens qui les connaissent mieux que moi. Parce que souvent, les Maorais, alors il y a quelque chose qui est très particulier aussi chez les Maorais, c'est qu'on est sur un territoire où les gens, et notamment les adolescents, sont très fréquemment possédés par les djinns, font des crises de possession. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde comme Mayotte. Au Maroc, ça existe aussi. Ça existe un petit peu partout en Afrique. Mais j'ai travaillé avec des gens qui m'ont dit qu'ils partageaient leur vie avec le djinn. Donc, ils préparent les repas, qu'ils mettent sous leur lit. Ils ont vraiment la sensation de partager leur existence propre avec une entité, une entité qui les habite.
Est-ce que c'est pour ça donc que vous avez choisi Mayotte comme lieu de photographie entre guillemets?
Moi, je voulais faire le deuxième chapitre d'un travail que j'avais commencé au Nigeria. C'était un travail sur les jumeaux. Et en fait, dans ce deuxième chapitre, je voulais développer, explorer un autre aspect, c'est-à-dire le cœur de ce travail-là sur les mythologies et les croyances et le monde de l'invisible se cache derrière, en fait, une vraie quête pour moi qui est quasiment transformative, c'est-à-dire qui questionne notre relation à la nature, parce qu'on ne peut pas séparer le monde de l'invisible et la nature qu'ils habitent, et la nature qu'ils habite. Donc il y a toute cette question de notre lien, et je crois qu'il y a c'est un mot bizarre que je vais utiliser, mais je crois qu'il y a un secret là au niveau du lien entre notre relation au vivant, notre relation aux morts, notre relation aux esprits qui fait sens dans ces cosmologies et qui m'intéresse, qui me questionne beaucoup. Voilà.
Et ce sont des choses qu'on peut retrouver aussi dans vos autres travaux ou...
En fait, comme je vous le disais, j'ai fait un travail en 2018 qui s'appelle l'Inde of Ibeji, sur les jumeaux, sur la mythologie des jumeaux au Nigeria, et qui parle de la figure jumellaire comme quelque chose qui... C'est une figure qui questionne notre unité, notre division, la démultiplicité. C'est aussi, je parlais tout à l'heure du lien avec la nature, c'est un monde en écho en permanence, c'est-à-dire que nous, humains, on est en rapport avec un arbre, on est en rapport avec un type d'animal, on est en rapport avec le monde minéral, et que... c'est ça qui m'intéresse. Et j'avais posé, sans le savoir, en fait, c'est qu'en faisant mon site internet que je me suis aperçue de ça, j'avais posé les premiers jalons de ça en 2012 en allant en Lettonie. Vous voyez, ça n'a rien à voir. En allant en Lettonie, où je me suis intéressée à la jeunesse lettonne qui préservait, qui était une espèce de gardien de la culture lettonne. Enfin, la Lettonie a été occupée par les Allemands, par les Russes, pendant des siècles durant. Mais il y a comme ça un cœur letton qui était resté intact et qui s'inscrivait beaucoup dans l'animisme letton, dans des croyances animistes. Donc voilà, et c'est en faisant mon site internet, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai dû planter une petite graine, et vous voyez, ça n'a poussé qu'en 2018.
et donc, à travers vos photographies, donc, sur les croyances, sur la nature, les mythes, etc., vous donnez une représentation quand même totalement différente de ce qu'on voit dans les médias traditionnels. Pourquoi cette différence, ou pourquoi est-ce que c'est important pour vous justement de représenter autre chose ?
L'idée, c'était pas forcément de m'inscrire dans la différence. L'idée, c'est de me pencher sur ce qui m'intéresse. Donc voilà, ça s'est fait de façon indirecte. Après, c'est vrai que ça rentre dans la description du projet. Parce qu'effectivement, je pense que de métropole, on entend peu parler de Mayotte. On en entend parler quand il y a eu Chido, malheureusement. On entend parler pour les problèmes d'immigration. Et en fait, je réalise que ce sont des territoires qui, en métropole, on ne connaît pas du tout. Alors que c'est un département français. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Donc, c'est un territoire qui soulève la question des identités. Comment on fait pour intégrer, pour faire en sorte que ce territoire soit un département français avec tout ce que ça requiert, mais en même temps puisse préserver. Enfin, il y a une question de fond qui, moi, j'associe à la question coloniale. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à trouver une façon de faire nation avec des gens qui culturellement sont extrêmement différents. Voilà. C'était ça. Mais non, je voulais pas du tout prendre le contre-champ de quoi que ce soit, même si ça me plaît bien, dans le fond.
Et vous avez parlé du cyclone Chido, justement, qui a fait beaucoup de morts et des milliers de blessés. Est-ce que vous y êtes retourné depuis ? Est-ce que vous êtes resté en contact avec les gens avec qui vous avez parlé là-bas ?
Ouais, alors j'ai envoyé plusieurs messages. J'ai envoyé un message à Jojo du Royaume des Fleurs et j'ai pas eu de réponse. Je pense qu'il devait être vraiment en dessous et voilà. Et j'ai envoyé aussi un message à mes deux petites grand-mères qui m'ont adoptée, qui m'ont introduite dans tous les Ziaras, qui m'ont emmenée tous les week-ends faire le tour des lieux sacrés où vivent les esprits. Et elles allaient bien, miraculeusement. Enfin, c'était vraiment... J'étais soulagée, ouais.
Est-ce que vous pensez que potentiellement vous y retournerez pour prendre d'autres photos ou...
Ouais, j'aimerais bien y retourner. Je sens que c'est un travail qui demande encore un petit peu d'attention. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. J'aimerais bien l'activer par des ateliers. Il y a toute la question de la représentation. Je pense que c'est aussi l'avantage de travailler sur des sujets et sur des sujets invisibles, c'est que c'est une porte ouverte vers l'imagination, vers l'imaginaire. Et finalement, c'est un imaginaire qui, s'il est collectif, il est riche. Donc j'aimerais bien y retourner pour puiser un petit peu dans cette richesse et puis, du coup, la rendre visible aux autres.
On n'en a pas encore parlé non plus, mais... Combien de temps est-ce que vous êtes resté à Mayotte pour faire toutes ces photos et combien de photos il y a dans l'exposition justement ?
Oh,
si vous zut. Savez.
Je ne sais pas combien il y a de photos dans l'expo. Combien ? Ah pardon. Non, je ne sais pas. Je ne les ai pas en tête. Je crois qu'il y en a 19 ou 22, je ne sais plus, okay. De tête. Et oui, il y en a des milliers. Enfin, je fais beaucoup de photos et j'aimerais bien continuer. Oui.
Et depuis le 16 janvier, on peut visiter votre exposition. Est-ce que vous avez déjà eu des retours, des avis ?
Non, je suis venue à Rennes pour la première fois. C'était l'année dernière, au mois de novembre ou d'octobre. Pour rencontrer Sarah Dessin et décider un petit peu de la mise en place de l'expo. Et c'est elle qui a eu l'idée merveilleuse de me présenter Estelle qui fait sa thèse sur Ngor et qui mène à la conversation qu'on va avoir ce soir. Donc non, c'est la deuxième fois que je reviens et j'ai pas vu l'expo en fait. Je suis venue directement voir.
Donc vous allez la découvrir en même temps.
Oui, exact.
Et pour celles et ceux qui sont intéressés, il faut se dépêcher car c'est bientôt fini, c'est
ouais, ça c'est un finissage, c'est, voilà, c'est pas un vernissage, c'est un finissage. Donc on termine en beauté.
On peut la voir jusqu'à vendredi, ce vendredi, dans la chambre claire située dans le bâtiment P du campus Villejean de l'université Rennes 2. Et si on veut retrouver votre travail, on peut aussi aller voir votre site internet.
Ouais.
Qui est benedictekurzen.net.
K-U-R-Z-E-N, c'est inhabituel comme orthographe.
Effectivement, vaut mieux préciser. Et aussi votre compte Instagram, donc benedict-kurzen. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Merci, et oui, ne loupez pas l'Expo Magini, donc jusqu'à vendredi à la Chambre Claire de Rennes 2.
6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique, c'est l'heure de l'Esbéton. Aujourd'hui, Cyriane nous parle de ce que nombre d'entre nous qualifient de France moche.
Large panneau publicitaire, grand box fait de tôles ondulées et parking à perte de vue. Bienvenue dans ce qui marque sûrement l'entrée de votre ville, la ZC, zone commerciale.
RPZ.
On en compte aujourd'hui pas moins de 1500 en France, couvrant une surface équivalente à 5 fois Paris. Dans chacune, les mêmes chaînes de magasins. Conforama, Burger King, Noroto, Leclerc, Carrefour, Cuisina. Bref, elles sont partout et vous proposent de tout. Tellement qu'elles drainent à elles seules 72% des dépenses en magasin des Français pour un chiffre d'affaires total annuel de 300 milliards d'euros. Mais comment en est-on arrivé là ? Eh bien, tout démarre dans les années 60 avec l'arrivée d'une véritable révolution. Aujourd'hui, l'épicentre de quasiment chacune des zones commerciales, l'hypermarché. Un lieu qui va tout changer, puisqu'on va y retrouver de l'alimentaire comme du non-alimentaire, et ce, pour pas cher. Rien à voir avec les petites supérettes, mal ordonnées d'autrefois. Le tout premier hypermarché débarque en 1968 en France. Une arrivée se faisant en grande pompe lors des fameuses 30 Glorieuses. Les salaires vont bien et le niveau de vie augmente. La société de consommation est là et il va falloir des infrastructures de masse pour l'accompagner. Des temples auxquels on ne se rend bien évidemment pas à pied, mais en voiture. et on se gare sur des immenses parkings construits pour accompagner ce chamboulement économique. À ce moment-là, les hypermarchés aux gigantesques parkings existent déjà par milliers outre-Atlantique. Et oui, parce que ce modèle nous vient bien évidemment des États-Unis. C'est le berceau du capitalisme quand même. Entre 1957 et 1965, 2300 hommes d'affaires vont se rendre aux conférences d'un certain Bernardo Trujillo. Séminaire dans lesquels il enseigne les méthodes marchandes modernes pour un fabricant de caisses enregistreuses. Mais c'est qui ce Bernardo ?
Eh bien, pour vous le dire, Jamy.
Eh oui, je vais vous le dire. Mes apôtres. Mais c'est qui ce Bernardo ? Eh bien, pour beaucoup, il est considéré comme le pape de la grande distribution. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va largement vendre les splendides avantages des grandes surfaces aux énormes parkings, aux hommes d'affaires français. Parce que, comme il le dirait, no parkings, no business. Après ça, son fan number one en France, Marcel Fournier, fonde Carrefour en 1963. Le premier est établi à Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue de Paris. Et le reste de l'histoire, vous le connaissez déjà, c'est un succès. C'est à partir des années 70 que les hypermarchés vont concrètement apparaître autour des villes. Les terres agricoles n'étant pas chères, il est facile de s'y installer, aussi bien pour les hypermarchés que pour les populations. Et oui, parce que c'est aussi le début du grève pavillonnaire français. Ce à quoi s'ajoutent les autoroutes tout juste construites, bref, de quoi amasser de grands flux de passagers et donc de consommateurs. Les autres entreprises aux marchandises plus précises vont flairer la bonne affaire et s'installer aux abords des hypermarchés dans de petites boîtes. Les zones commerciales sont nées et leur aspect pratique est ultra concentré, dans lesquels il est simple de se déplacer en voiture, va séduire les Français. Mais vous y voyez bien le danger pour les commerces de centre-ville que représentent ces zones. Le gouvernement de l'époque aussi. Il va donc en créer en 1973 de quoi réguler l'installation des moyennes et grandes surfaces à partir d'un seuil de 1000 mètres carrés environ. C'est la commission départementale d'aménagement commercial. Au fur et à mesure, ces commissions vont être qualifiées de machines à dire oui. Parce que, en fait, déjà les mairies y voient une opportunité facile de créer de l'emploi et de ramener des recettes fiscales. Et puis, ces commissions, elles sont surtout corrompues. Les élus se faisant acheter leur voix par les distributeurs, les mêmes distributeurs, qui pour se faire bien voir, financeront gymnase, piscine ou encore collège. Mais aussi les fameux ronds-points présents absolument partout sur le territoire. En 90, l'État ralentit ce phénomène de corruption et donc l'étalement de zones commerciales. Mais pas pour longtemps, parce qu'en 2000, leur reconstruction repart de plus belle jusqu'à atteindre 4 millions de mètres carrés en France. Et puis en 2008, c'est le bouquet final. Nicolas Sarkozy supprime le critère de densité commerciale. Traduction, on construit même quand on en a déjà assez. Et voilà comment on en est arrivé aux chiffres que je vous ai donnés en début de chronique. Et enfin, pour terminer, je voudrais revenir sur ce que représentent ces zones. Pour moi, je sais, c'est évident, mais c'est avant tout le symbole d'un modèle économique à bout de souffle. Celui d'un étalement commercial artificialisant les sols, et ce, au profit d'une poignée de grandes familles de milliardaires. Milliardaires qui, eux, n'auront jamais effectué les emplois pénibles qu'on y pratique, et qui ne verront jamais leur espoir d'autres horizons s'arrêter à ces zones vidées de vie après 20 heures. Sur ce, c'était Les Béton, et on se redit au mois prochain. Salut!
Ah, merci Cyriane, c'était vraiment
merci pour ces faits.
Mais oui,
hyper corporate.
Très corporate.
Je te laisse, faut que j'aille à Leroy Merlin.
Le téléphone.
Téléphone.
J'adore Leroy Merlin.
Allô, allô.
La radio sauvage.
Ça vous saoule que je fasse de la publicité cachée pendant les jingles ?
Oui, horrible.
Eh bien, dites-le moi. Laissez-moi un message. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Non, vous pouvez aussi nous dire des choses plus sympas. Hein. Mm-hmm. Tout ce que vous voulez, en fait. Hein. On diffusera votre petit message à la fin de cette émission. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y a un jeu concours en ce moment. On a parlé du triangle hein, pendant cette émission, c'est un partenaire de Syllab et de 6 heures avant minuit et c'est pour ça qu'il vous offre aussi une place pour un spectacle, pas Baté Fado, un autre spectacle qui s'appelle Infinité et qui aura lieu le jeudi 13 mars à 20h, un spectacle de danse of course de la compagnie Ivan Alexandre. Pour jouer et pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe.
Tendresse.
ASMR. Voilà, le mot de passe, c'est tendresse. Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Merci Marilyn pour la technique et à demain.
C-lab.
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.